Il faut que je me réoriente. Ce ne sont pas les notes du prochain chapitre, ce sont les notes de ce chapitre. Et... Non. On était en train de voir, de considérer une nouvelle perspective quand il s'agit de la peur, de la crainte. Nous savons comment nous on voit les choses, comment on amplifie les choses, et qu'on avait utilisé ce terme d'avoir une nouvelle perspective, c'est d'inclure Dieu dans notre façon de voir. Les choses qui nous font spécifiquement peur. Et on avait utilisé l'exemple de Josué quand il devait prendre la place de Moïse. C'était un moment difficile qui pourrait, en plein différents points de vue, procurer beaucoup de crainte et de peur dans sa vie. Et on voit l'encouragement que Dieu lui donne en Josué chapitre 1er. On avait vu toute cette partie-là. Et on ne va pas le refaire. On s'était arrêté à la page 91, il me semble, juste avant ce passage de 2 Corinthiens 5, 4 à 7. Et avant de lire ce passage, on s'était posé les questions. Que ne croyez-vous pas que Dieu regarde à notre situation en regardant pas seulement ce qui nous fait peur, c'est-à-dire qu'il n'ignore pas la chose qui crée cette crainte et cette peur en nous, mais il regarde aussi si nous lui faisons confiance malgré cette peur. Et c'est ça qu'il veut voir. Ce n'est pas le fait, ah, t'as peur, je te châtie. Non, il comprend qu'on ait peur. Mais il veut voir si malgré cette peur, ben, Seigneur, je décide, je fais le choix. Je sais qui tu es, toi. Je connais tes promesses, on a vu ces choses. Et je fais confiance que tu ne vas pas faillir à tes promesses. Pas parce que je le mérite, mais parce que tu m'aimes. Et en 2 Corinthiens 5, versets 4 à 7, nous dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, hein, par de notre corps, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et avec tout ce contexte, on pourrait voir pas mal de choses par rapport à qu'est-ce qu'il veut dire, pourquoi on est accablé, par de notre. Pour nous chrétiens, on est dans cette tente, dans ce corps imparfait, avec notre nature charnelle qui nous pousse toujours vers le péché, etc. Et on en a marre de lutter contre ces choses. Et on pourrait parler toute la soirée par rapport aux arts de l'esprit qui nous donnent pour aider à combattre contre ces choses, justement. Mais il nous dit au verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Il ne parle pas du fait que on n'a pas peur, on est confiant malgré la peur, mais que tout le but de ce passage, c'est de nous rappeler qu'on peut avoir une confiance, non en nous, mais en la personne qui nous donne la force. Parce qu'il nous dit, malgré toutes ces choses, malgré le fait que nous, on sait qu'on a ce corps imparfait, malgré que même que notre propre corps lutte contre nous, on peut être plein de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ça, c'est pas grave, car, il donne la raison, nous marchons par la foi et non par la vue. Il dit, si on devait se fixer, de regarder les choses d'une manière humaine, alors oui, on a toutes les raisons de pas seulement avoir peur, mais même de vouloir abandonner. On se dit, c'est pas la peine de lutter. Mais parce que on ne lutte pas de par nous-mêmes, de par nos forces, et nous marchons par la foi, non par la vue. Ce n'est pas ce que nous voyons, pas seulement de nos yeux, mais ce n'est pas ce que nous ressentons, avec nos émotions, ce n'est pas toutes ces choses qui vont déterminer si on doit avoir peur ou non. Mais la foi en quoi? Ce n'est pas la foi en nous. Ce n'est pas la foi dans mes capacités, parce qu'on vient de dire, toutes ces choses nous poussent loin de Dieu, il dit. Mais la foi dans qui est Dieu, et la foi dans ses promesses, toutes les choses qu'on avait vues dans les semaines juste avant cela. Et rappelez-vous que l'une des raisons, hein, les résultats voulus de la peur, c'est de nous faire douter de la personne de Dieu et de ses promesses. La raison de pourquoi la Bible dit que Satan est comme un lion rugissant. On avait parlé de ce passage. C'est dans le but d'effrayer, dans le but d'instaurer cette crainte et cette peur. Dans le domaine spirituel, Le but, le résultat voulu de toute peur, c'est de nous faire douter, de créer un doute là où il n'y en avait pas sur la personne même de Dieu et donc de ses promesses. Et c'est pour ça qu'on doit marcher par la foi et non par la vue. Parce que la vue, oui, elle va faire peur. Nos sentiments, elle va augmenter cette crainte. Nos émotions vont encore rajouter de l'essence sur notre peur. Mais la foi devrait surpasser toutes ces choses, voire au-delà de tout ça. On inclut, comme on avait dit, dans ce nouveau perspective, la personne de Dieu, et dit, d'accord, ben là, je ne me focalise plus sur ce qui me fait peur, je me focalise sur quelle est la solution à cette peur. Et la foi nous fait voir les choses, si vous préférez, ben comme Dieu les voit, comme Dieu la voit. La vue, nos émotions, notre cœur même, va nourrir notre crainte et notre peur. Mais la foi, bah, elle va nous rendre plein de confiance, parce qu'on est en train de voir les choses telles que Dieu la voit. Et après avoir considéré les promesses et les conséquences, ainsi que le besoin d'avoir la bonne perspective, bah, maintenant, il est temps de faire une chose de plus pour pouvoir surpasser cette peur. Ça, il est temps d'aller de l'avant, si vous voulez, ou de faire. Parce qu'on parle de marcher par la foi et non par la vue, de faire ce qu'on appelle souvent ce pas de la foi. Parce que on peut dire, oui, il y a cette chose qui me fait peur, il y a cette circonstance qui me fait peur, il y a cette situation qui me fait peur, il y a toutes ces questions de tous les si et qu'est-ce qui pourrait arriver qui me font peur. Mais maintenant, par la foi, je me rappelle de Dieu, je me rappelle de ses promesses, je sais ce que Dieu veut que je fasse, je suis d'accord avec cela. Mais rien n'a encore changé tant que je n'ai pas décidé d'ajouter des œuvres à ma foi. Et donc de marcher par la foi et d'aller de l'avant. On a utilisé cet exemple à plusieurs reprises du pompier qui est devant cette maison en feu et qui maintenant réalise qu'il y a encore une personne à l'intérieur. Je ne m'attends pas à ce que le pompier n'ait pas peur. Lui, plus que moi, comprend le danger, le vrai danger. Moi, il y a des dangers dans cette situation-là auxquels je n'ai même pas la connaissance que lui l'aurait. Qu'est-ce qui pourrait se passer si lui rentrait pour aller chercher cette personne? Mais le courage, ce n'est pas le fait qu'il ne doit pas avoir peur. C'est que malgré cette peur, il va aller de l'avant quand même. Il va aller rentrer dans cette maison pour aller chercher cette personne, malgré le danger, malgré la peur, malgré la crainte qui est réelle, qui est normale, qui est logique, mais il va le faire. Et pour nous chrétiens, c'est d'aller l'avant, de faire ce pas de la foi, ça va être pareil. Tu dis, je sais que tu as peur, je sais que pourquoi ça te fait peur, mais tu me sais, tu me connais moi aussi, et tu sais quelles sont les promesses que je t'ai données. Maintenant, je m'attends à ce que tu montres cette confiance en allant de l'avant. Est-ce que ça ne t'empêche pas d'obéir à ce que moi je veux que tu fasses, malgré la peur, malgré la crainte? On va prendre l'exemple qu'on a déjà parlé ce soir, de la possibilité de témoigner à quelqu'un. Combien de fois, combien de chrétiens sont coupables de ne pas avoir témoigné quand ils savaient l'occasion, ils étaient poussés par l'esprit de le faire, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu peur? J'en suis coupable aussi. J'en suis pas fier. Mais je ne peux pas dire que je n'ai jamais refusé parce que j'avais peur à ce moment-là de le faire. Alors, on savait ce qu'on devait faire. Et oui, on avait peur. On savait comment Dieu regardait la situation. Et on aurait dû faire ce pas de la foi. J'ai peur et je sais que Dieu veut, donc je vais aller de l'avant. Je vais le faire quand même. Et tant qu'on n'a pas fait ce pas de la foi, on n'a pas. On n'a pas laissé Dieu nous aider à vaincre cette peur et à surmonter cette peur. Et beaucoup ne se rendent pas compte, mais pour beaucoup, la peur est même devenue comme une addiction. Hein, pour la plupart des addictions, c'est différent au début, mais avec le temps, les personnes ont commencé à prendre plaisir à parler aux autres de leurs craintes et de leurs peurs. Parce qu'ils prennent plaisir à l'attention qu'on leur donne et à la compassion également qu'on leur démontre. Pour certaines personnes, généralement ce n'est pas pour les chrétiens, mais ça arrive quand même. Ça peut être une peur de leur futur, ça peut être une peur de quelque chose par rapport à leur travail, ça peut être peur par rapport à leur carrière, leur finance, leur santé, peu importe. À partir du moment qu'ils peuvent en parler et recevoir un peu de réconfort et de sympathie des personnes à qui ils parlent, ben, ça leur donne aucune motivation de vouloir surmonter cette peur. Ça rend la volonté de vaincre et dépasser cette peur difficile. D'un côté, on veut se débarrasser de cette peur, mais on ne veut pas perdre l'attention qu'elle nous donne non plus. Et beaucoup de chrétiens ne se rendent même pas compte qu'ils sont tombés dans ce piège. Parce que ils en parlent, ils savent qu'à un moment donné, ils vont dire, oui, mais tu ne devrais pas. Oui, je sais, mais en même temps, je reçois l'attention. On fait attention à moi. On me montre de la compassion. On me montre de la gentillesse. On me traite avec douceur. Et il faut voir le danger de minimiser la peur dans notre vie. Parce que si on fait cela, on est en train de littéralement jouer avec le feu. Oh, mais je le maîtrise. C'est petit, c'est sans danger. Je ne vais pas brûler la maison. Combien de maisons ont été brûlées par quelqu'un qui jouait avec le feu, qui ne pensait pas qu'il brûlerait la maison? Mais de voir la crainte et la peur comme quelque chose que nous devons admettre et vouloir combattre, et quelque chose qu'on devrait avoir. Encore une fois, hein, pas qu'on n'ait pas le droit d'avoir peur, mais on ne doit pas laisser cette peur nous empêcher d'être fidèles à la volonté de Dieu. Comme on en a parlé, on a utilisé l'exemple de David et de Moïse en face de Pharaon. Peu importe si un géant est en face de moi et que toute l'armée derrière moi, comme David, avait peur, Dieu peut m'aider à faire face à cette peur et de faire ce pas de la foi et agir par la foi et aller affronter ce géant. Non pas avec arrogance, non par fierté et orgueil, mais non d'utiliser la peur des autres comme une excuse pour moi de ne pas avancer non plus. Peu importe si j'ai peur de Pharaon, de ce qu'il pourrait me faire, Dieu peut m'aider à faire taire cette peur et de faire confiance, avoir la foi que Dieu réalisera tous les prodiges qu'il a faits pour libérer le peuple d'Israël. Et ne pas utiliser cette peur comme excuse pour dire, envoie Aaron à ma place. Moi, je ne peux pas. Mais tant qu'il n'a pas fait ce pas, il n'a pas juste dit d'accord, il a dû y aller, il a dû parler, il a dû confronter. Il a dû faire confiance à Dieu malgré la peur qu'il avait. Peu importe si j'ai peur et que je ne comprenne pas toute la situation qui est en face de moi, le fait de connaître Dieu, le fait de connaître son amour, le fait de connaître ses promesses devrait suffire pour ne pas écouter mes craintes plus que Dieu. Depuis le début de cette étude, nous parlons du fait que nous devons nous réveiller chaque jour en réalisant que nous sommes comme des soldats de Christ. Prêt au combat, faisant attention à chaque pas que nous faisons. Et pas une journée ne passe où notre ennemi n'ait pas pris le temps de poser des mines sur notre sentier. Et si nous marchons comme si ce n'était pas le cas, nous marchons comme des insensés, prêts au désastre. Et c'est vrai qu'on ne sait pas d'avance s'il a placé comme on a vu, des mines de l'orgueil, des mines de l'envie, des mines de l'insécurité, des mines de la déception ou autre. Mais nous ne devons pas tomber dans le piège en nous réveillant chaque jour avec la peur au ventre non plus. Ce serait comme déjà marcher sur la mine de la peur dès le réveil, dès notre premier pas sur le sol, sorti du lit, déjà boum. Alors voici quelques conseils que nous pouvons suivre pour nous aider à faire face à nos craintes, sans pour autant nous réveiller tous les jours dans la crainte, ce qui est bien différent. Faut commencer par admettre nos peurs et admettre que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Ceci est une étape qui revient souvent dans cette étude, de commencer avec le fait qu'on doit s'humilier assez pour admettre le tort que nous avons et le fait que Dieu est suffisant. C'est parce qu'il y a une force réelle dans le fait qu'on avoue et qu'on admette avoir un problème dans un domaine précis, au lieu de l'excuser ou au lieu de le minimiser, comme c'est souvent le cas qu'on essaye de. Par notre fierté, par notre orgueil personnel, on ne veut pas, mais il faut passer par cette étape. Il faut admettre. Pas juste dire des paroles qu'on ne pense qu'à moitié, mais de parler, dialoguer réellement avec le Seigneur et admettre sincèrement, j'ai un problème dans ce domaine, mais je sais que tu es capable de m'aider à m'en sortir. Donc, admettre que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Parce qu'on a, y a pas de mal à dire au Seigneur que telle ou telle situation me fait peur, que ça me terrorise. n'y a pas de mal à le lui dire. Le mal, c'est quand Dieu nous répond et nous encourage, nous réconforte, d'ignorer ce qu'il dit, de continuer à aller dans cette peur. C'est là où il y a le mal. Mais il n'y a pas de mal de pouvoir avouer, dire Seigneur, ceci me fait peur. Cet inconnu qui va venir me fait peur. Mais de ne pas rester. Le fait de vouloir le lui dire, c'est parce qu'on a déjà une volonté de ne pas rester contrôlé par cette peur. Quand on peut faire ça, on peut ensuite passer à l'autre étape et d'admettre, admettez que vous faites confiance en Dieu. Oui, mais ça va de ça, si je lui parle, si je prie. Non, ça va pas de soi. Beaucoup prient à Dieu sans lui faire confiance. Beaucoup prient et demandent l'aide de Dieu. Et ensuite, ils disent même dans leur prière les bonnes paroles. Ils vont dire, je te remets tout entre tes mains. Je te fais confiance. Et dès qu'ils ont fini de prier, ils ont repris leur peur entre leurs mains. Ils ont repris, ils disaient, bah, maintenant il faut que je trouve une solution à ce problème. Maintenant il faut que je. Ils ont dit les bonnes choses, mais il faut qu'ils admettent, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire, montre-moi mes responsabilités, il faut que je sois responsable, mais c'est en toi que je mets ma confiance pour résoudre ce problème. Ce n'est pas en ma sagesse, ce n'est pas en ma force. Donne-moi la sagesse, donne-moi la force. J'admets que ma confiance est en toi et non dans mes capacités, non dans mon pouvoir de persuasion, non dans mon pouvoir de bien planifier les choses, de trouver une solution. Toute crainte, n'importe quelle peur, qu'elle devrait être anéantie par la seule vérité que Dieu est souverain. Peu importe ce qui nous procure cette peur, si on se rappelle, quand je prie à Dieu, je prie envers lui parce que je sais que Dieu est tout-puissant et Dieu est souverain, que rien ne peut entraver ce que lui s'est résolu de faire. Dieu est toujours en contrôle. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais indifférent à mes besoins. Dieu nous aime. Dieu est fidèle. Dieu est toujours bon. Pas seulement bon quand il répond à mes prières comme je veux. Dieu est toujours bon. Dieu est compatissant. Dieu est toujours digne de confiance. Ça, c'est une partie infime de comment on pourrait décrire la personne de Dieu, de qui il est. Et quand on prie envers lui, et qu'on se rappelle toutes ces choses de qui il est, ben oui, le plus que je pense et que j'admets ces choses, et que je place ma confiance en ce Dieu bon, qui fait jamais d'erreur, qui est tout-puissant, qui est infini, qui connaît mes besoins, et qui s'intéresse à moi, qui m'aime, etc., etc., ben je ne peux que tout doucement être de plus en plus encouragé parce que je sais qu'il prendra soin de moi comme il a promis. Et ce que lui, il a promis, ce que lui a décidé de faire, rien ni personne ne pourra l'empêcher de faire ce que lui a voulu faire. Dieu, dans sa perfection, sait, connaît toutes choses. Non seulement voit-il nos problèmes sous tous les angles, mais il voit avec clarté la meilleure solution pour chaque problème. Nous, on voit le problème de notre point de vue. Généralement, on fait de ce problème bien plus grand qu'il n'est. Dieu voit ce problème de notre point de vue, et du point de vue de l'autre, et d'un autre point de vue, et du sien. Il voit tous les angles. Et il voit également la meilleure des solutions. Et Seigneur, c'est en toi que je mets ma confiance. Dieu est tout-puissant. Il ne peut pas faillir à nous donner la force et la sagesse que nous avons besoin pour nous aider si nous sommes prêts à le recevoir. Et non nous obstiner à essayer de résoudre ce problème par nous-mêmes. J'ai envie de dire que ça, c'est peut-être un problème encore plus grand chez les hommes que les femmes, je ne sais pas, parce que les hommes sont connus pour être des personnes qui aiment résoudre les problèmes, mais c'est le problème de tout le monde. Luc chapitre 12, versets 29 à 32 nous dit: Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et vous connaissez bien le passage, il y a un passage similaire en Matthieu, et je ne vais pas le refaire. Mais je vais juste ressortir cette petite phrase à la fin, que je trouve que dans la bonté de Dieu, dans son amour pour nous, au milieu de tout ce qu'il nous dit, qu'on n'a aucune raison d'avoir peur, même pour les choses matérielles de ce monde. Manger, vêtir, toutes ces... même pour toutes ces choses. À la fin, il nous dit quoi? Ne crains point quoi, petit troupeau. Un petit rappel subtil sans le dire vraiment, on est toujours ses brebis et il est notre bon berger. Quel berger ne prend pas bien soin de ses brebis avec tous ses besoins? Seigneur, c'est en toi que je mets ma confiance. Je suis une brebis, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Mais comme bon, tout bon brebis, je te suis. Là où je vois mon berger, c'est là où je vais. Quand le berger m'appelle, je viens, je reconnais sa voix. Quand il m'a dit, va par ici, j'y vais. Quand je suis perdu, je sais qu'il viendra me chercher, même s'il doit quitter les 99 pour le faire. Même au milieu de tout ça, il nous rappelle au milieu, un peu comme milieu de nulle part. Petit troupeau, ne crains point, petit troupeau, je suis un bon berger. On s'arrêtera là, Dieu voulant, on nous a dit, c'était, ça suffit.